Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public. Un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, le philosophe François-Xavier Bellamy, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, le politologue Dominique Régnier et le directeur général de Terra Nova Thierry Pêche. Au sommaire ce dimanche, université comme un esprit de mai. Et pour commencer, le vivre ensemble, version Macron. L'essor de l'islamisme, angle mort d'Emmanuel Macron, avait écrit le journal Le Monde mercredi, lequel Macron avait sans doute répondu à sa manière mercredi, à l'occasion de la cérémonie nationale en l'honneur du nouveau héros de la République, le colonel Beltrame. Hommage soigneusement organisé pour qu'on y voie la nation rassemblée autour d'un héros français, le président Macron choisissant de revivifier le roman national plutôt que de réveiller les fractures hexagonales. Un moment d'union républicaine au beau milieu d'une semaine marquée par le récit des Allahu Akbar du terroriste pénétrant dans le Super U, les témoignages sur la foi catholique du gendarme qui lui avait certainement donné le courage du sacrifice. Une semaine marquée ensuite par la mort de Mireille Knoll, assassinée parce que juive. Bref, une semaine qui rappelait la vivacité dans notre pays de la question des religions, des identités, des radicalités et du fameux « vivre ensemble ». Alors face aux accusations de naïveté, de laisser-faire d'un Laurent Wauquiez, face à la permanence d'un salafisme que Manuel Valls voulait interdire, qu'attendait-on vraiment du président Macron? Des paroles? Un grand discours sur la laïcité? Une réorganisation de l'islam de France ou plus concrètement des actes? Pour ces professeurs dépassés, par exemple, qui ne pouvaient plus aborder en classe certains sujets, ou encore pour ces quartiers qui se vivaient comme abandonnés et ghettoisés. Vivre ensemble, quel était en la matière le catéchisme d'Emmanuel Macron ?
Il faut interdire le salafisme, c'est pas pour donner un cours de droit, mais parce que nous devons l'attaquer de tous les moyens. Bien sûr, il faut enfermer des mosquées, c'est fait, en expulsant des imams salafistes quand ils sont étrangers, mais nous devons refuser que ce courant religieux, ce courant politique s'implante, se diffuse pas seulement à travers Internet, mais dans notre pays, et c'est vrai aussi pour les frères musulmans.
Je demande solennellement à Emmanuel Macron de sortir de sa coupable naïveté et d'avoir enfin le courage de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les Français.
Les atours religieux dont il se pare ne sont que le dévoiement de toute spiritualité et la négation même de l'esprit. Car il nie la valeur que nous donnons à la vie. Valeur niée par le terroriste de Trèbes. Valeur niée par le meurtrier de Mireille Knoll qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive et qui ainsi a profané nos valeurs sacrées et notre mémoire.
Thierry Pêche, ceux qui attendent toujours le grand discours macronien sur la laïcité, l'islam dans la République, ils peuvent attendre encore longtemps selon vous ?
C'est possible, c'est probable. Je vais revenir à votre question, mais je voudrais dire quand même sur Arnaud Beltrame quelque chose. Je crois que la réponse que cet homme a apportée à l'islamisme est la plus terrible qui lui ait été apportée depuis plusieurs années, parce que les islamistes, ils croient que nous ne croyons en rien. Ils pensent qu'eux seuls ont le courage de sacrifier leur vie pour leur cause. Et ils ont eu sous les yeux un sacrifice démocratique. Ils ont eu un martyr pour la vie, pas un martyr pour la mort comme ils le font, mais un martyr pour la vie. Je crois qu'il faut bien sûr célébrer le courage de cet homme, mais il faut célébrer d'une certaine façon cette idée que la démocratie est plus grande que nous et qu'elle mérite parfois qu'on aille jusque-là pour elle, comme d'autres hommes l'ont fait dans la guerre autrefois, ou comme d'autres le feront dans le futur. J'avais ces pages de Thucydide dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse dans l'esprit, d'une certaine façon, en écoutant le président rendre hommage à Beltrame. Il rapporte les propos de Périclès qui rend hommage aux morts athéniens de la guerre, et Périclès commence par décrire ce qu'est la cité démocratique. Et il dit, voilà la cité dont ces hommes n'ont pas voulu se laisser dépouiller. Et il dit aux Athéniens qui sont là, sachez que chez nous, la liberté se confronte avec le bonheur et le courage avec la liberté. Et j'ai trouvé que ces mots pouvaient résumer ce qu'on avait vécu ces derniers jours. Alors, pour revenir à votre question, Émilie, ça fait plusieurs fois qu'Emmanuel Macron remet à plus tard un discours qu'il doit prononcer sur la laïcité, et je crois qu'il a raison. Je pense que ces questions ont été surdramatisées dans les 5 années qui viennent de s'écouler, surdramatisées au point d'être un nœud coulant qui s'est resserré sur la gorge du pouvoir politique. Je dis ces questions parce qu'on les a malheureusement mélangées. La laïcité, les mesures d'exception pour répondre au terrorisme, le débat sur l'islam, le débat sur l'islamisme, le salafisme, etc. Je vois bien que certains voudraient qu'on revienne à ce moment de passion à la faveur d'un événement tragique donc que je viens d'évoquer. Et c'est précisément le cas de Manuel Valls qui demande à ce qu'une idée soit interdite. J'ai trouvé que la réponse qu'avait apportée le Premier ministre devant les députés à l'Assemblée cette semaine en disant « on n'interdit pas une idée » était particulièrement pertinente et bienvenue. On interdit des actes, on interdit des appels à la haine, on interdit des mots qui peuvent avoir évidemment des conséquences, mais on ne peut pas interdire une idée en soi.
On peut fermer des mosquées, mais on ne peut pas rentrer dans les cerveaux.
Absolument. Cela dit, l'idée que Macron se fait de la laïcité, elle n'est pas mystérieuse. Il en a parlé à bien des reprises, et on sait bien qu'il se reconnaît dans une laïcité libérale, Aristide Briand, celle qui pense que l'État est laïque mais pas la société, que l'espace public n'est pas l'espace de l'État mais l'espace du public, de la société, que donc il ne faut pas imaginer que la laïcité soit une espèce de religion de ceux qui n'en ont pas, comme avait dit Régis Debray, qui viendrait affadir décolorer toutes les manifestations publiques. Donc je crois que là, il a été très clair là-dessus, mais le fait de ne pas de remettre à plus tard un grand discours sur ce sujet me paraît bienvenu, voilà.
François-Xavier Bellamy, en effet, 2 voix ont porté cette semaine pour souligner la naïveté présidentielle, celle de Laurent Wauquiez, celle de Manuel Valls, qui en effet a repris cette idée au départ du journaliste Mohamed Sifaoui de décréter une interdiction forte, politique, symbolique du salafisme. Est-ce qu'elles sont audibles, ces voix, dans la France de l'après-attentat ?
Il y avait de toute évidence un problème de moment. Et clairement, il y a un moment pour la politique, il y a un moment aussi pour l'Union. Maintenant, il est certain que après le moment de l'union, et évidemment, ce que disait Thierry sur Arnaud Beltrame est vraiment fondamental. Je crois aussi, comme vous, que nous avons vécu pour la première fois depuis très longtemps une véritable victoire contre le terrorisme, une victoire paradoxale puisqu'à la fin le nombre de morts ne change pas. Arnaud Beltrame a donné sa vie pour une autre, et donc du point de vue purement numérique, il ne s'est en fait rien passé. Mais sur le fond, la vérité échappe aux chiffres. Et nous le voyons ici mieux qu'ailleurs. De fait, nous avons montré à travers lui, il nous a donné de montrer dans le geste qu'il a donné, qu'effectivement, nous étions de ceux qui sont prêts à mourir, non pas pour tuer, mais pour sauver. Et si j'ai un tout petit point de désaccord avec ce que disait Emmanuel Macron dans l'extrait sonore qu'on a entendu, c'est qu'il ne s'agit pas de la valeur que nous donnons à la vie, mais il s'agit de la valeur de la vie. Alors maintenant, comment réagir à cette situation aujourd'hui? Et de fait, après le moment de l'Union, il faut aussi se poser des questions qui soient proprement politiques. Et il est vrai qu'il y a une naïveté qui n'est pas tant celle d'Emmanuel Macron que de celle de toute une classe politique pendant très longtemps. Une naïveté qui n'est pas tant à l'égard d'une idée qu'à l'égard d'une organisation qui est en train de se mettre en place. Et je crois que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut interdire une idée, je pense à un débat passionnant, mais il me semble qu'on l'a déjà fait. Hein. Le racisme est aujourd'hui, par exemple, considéré comme un délit et traité comme un délit. Et le racisme est une certaine idée qui a été pénalisée littéralement à l'intérieur de notre droit. Mais je crois qu'ici, ce qui est en jeu, ce n'est pas de pénaliser une idée. Ce qui est en jeu, c'est de s'attaquer directement à une organisation. Et de ce point de vue-là, oui, nous faisons collectivement preuve d'une coupable naïveté. Et il me semble que le gouvernement, aujourd'hui, fait preuve d'une coupable naïveté. Pour ma part, je n'attends pas le grand discours d'Emmanuel Macron sur la laïcité, mais nous pouvons attendre collectivement les actes. Le 15 mars, Gérard Collomb était en Algérie. Il a rencontré le ministre des cultes algérien, docteur en sciences islamiques, Mohamed Aïssa, qui a annoncé avec lui que l'Algérie allait envoyer 100 imams en France pour le ramadan. Il y a quelque chose de sidérant dans cette situation. Alors même que l'Algérie, depuis 2006, a interdit la liberté religieuse. Alors même que l'Algérie est aujourd'hui en proie avec la montée d'une radicalisation qui fait que même des musulmans algériens sont violemment attaqués et parfois condamnés pour une défense d'un islam plus modéré, nous allons faire venir en France des imams algériens pour prêcher un islam que nous ne contrôlons pas. Et c'est notre ministre de l'Intérieur qui l'annonce. Qu'est-ce qu'on dirait, comme le remarquait Jeannette Bougrave dans Le Figaro avec raison, qu'est-ce qu'on dirait si le ministre de l'Intérieur annonçait qu'on va faire venir des prêtres d'autres continents pour venir combler les vides de nos paroisses? Enfin, oui, il y a quelque chose de complètement sidérant. Alors oui, il ne s'agit pas de parler, il ne s'agit pas de dénoncer des idées, il ne s'agit pas de contester maintenant des concepts, mais d'entrer vraiment dans l'action. Et de fait, nous savons aujourd'hui que dans notre pays est en train de se mettre en place une organisation articulée, pensée, méthodique pour propager cet islam de haine, pour propager ce radicalisme islamique qui, évidemment, va contre la pratique de beaucoup de musulmans qui voudraient concilier leur foi et leur identité française. Nous devons permettre à ces musulmans de vivre sereinement dans la communauté nationale et nous le leur devons en particulier en nous opposant à ces discours de haine et en le faisant avec une véritable énergie, ce qui ne se fait pas aujourd'hui.
Au fond, François-Xavier Bellamy, vous avez l'air de dire, comme Manuel Valls, qu'il faut dessiller Emmanuel Macron et le faire entrer dans une sorte de combat, de guerre culturelle avec ces islamistes-là. Sylvie Kaufmann, est-ce que précisément Emmanuel Macron refuse l'idée de rentrer dans ce genre de guerre ?
Je ne sais pas s'il refuse. Je crois qu'il a voulu prendre son temps. On a vu qu'il y a eu plusieurs signes. Il a annoncé des choses qui ne sont pas venues. On attendait plusieurs expressions, comme il avait dit, je crois, en décembre. Il a reçu les responsables du culte et il y avait un grand discours, en effet, annoncé. Il y avait aussi une instance de dialogue multilatéral qui a aussi été plus ou moins annoncée, qui n'a pas pris forme. J'aurais tendance à dire, avec Thierry, qu'il a raison de prendre son temps parce que ce sujet est tellement important, tellement explosif, qu'il y a eu tellement de tentatives avant et d'échecs, que l'idée de prendre son temps, de réfléchir pour essayer cette fois-ci de ne pas rater son coup a du sens. Le problème, c'est que le terrorisme, lui, ne prend pas son temps. Et que cette question a été réveillée donc avec l'attentat de Trèbes. Et de manière, vous avez souligné tous les deux, François-Xavier et Thierry, l'héroïsme et le sacrifice du colonel Beltrame. Thierry parle de sacrifice démocratique. Il y a une autre dimension qui est le sacrifice chrétien. Et là, on a une dimension nouvelle qui est ce contre-narratif en fait chrétien et l'irruption de la foi chrétienne dans toute cette question. On a eu une semaine, je crois que vous l'avez souligné tout à l'heure, 10 jours même, très religieux.
Le fait religieux s'est invité quasiment chaque jour dans l'actualité.
Dans un pays laïque qui revendique la laïcité comme un élément de son identité, on a eu la foi chrétienne de manière la extrême, si je puis dire, la plus sacrificielle. On a eu la foi juive avec l'assassinat de Mireille Knoll et la réaction assez forte qu'il y a eu contre cet antisémitisme. Et puis on a ce dévoiement de la foi musulmane, qui est le salafisme djihadiste, mais qui nous rappelle que l'islam est la deuxième religion de France et qu'à partir de cette foi musulmane, des horreurs se produisent. Donc, et tout ça, finalement, rentre un peu dans ce que je crois être, ce que j'ai lu être la conception de la laïcité de Macron, qui est une laïcité qui ne renie pas le fait religieux, qui ne rejette pas la religion, qui veut l'inclure, qui est une laïcité qu'on décrit comme ouverte, comme apaisée, comme dépassionnée, comme laïcité de collaboration. Enfin, j'ai lu plein de choses, il y a tout un tas d'épithètes et d'adjectifs qui décrivent cette laïcité qui intègre le fait religieux et qui considère que l'État doit être neutre, mais ne doit pas effacer la religion. Donc maintenant, il y a cette question. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Je n'en sais rien. Mais je pense que maintenant, il faut qu'il s'y attelle de manière plus urgente qu'il ne l'a fait sans doute jusqu'ici. Non pas qu'il ait négligé, mais qu'il pensait qu'il fallait prendre son temps, comme on disait tout à l'heure. Et la question qui se pose par-dessus tout, c'est comment structurer l'islam, comment organiser ce culte des musulmans de France. En ce qui concerne le terrorisme, moi je crois que la naïveté, non. Je ne pense pas que les politiques sont naïfs. Je crois qu'ils ne savent pas comment faire. On a un arsenal juridique extraordinaire au sens propre du terme. Je ne sais plus en combien de lois on a introduit pour lutter contre le terrorisme. On a quand même, mais même dans la loi de 1905, on a des mesures qui nous permettent d'interdire des réunions politiques dans les lieux de culte, de punir les gens qui font pression sur d'autres à des fins religieuses. Donc l'arsenal, il est là. On voit bien que le problème, il est ailleurs, il est dans l'éducation, il est dans notre société, il est beaucoup plus profond que juridique.
Donc vous semblez tous les trois, on va donner la parole à Dominique Régnier, assez d'accord pour dire qu'il ne faut pas s'attendre à de grandes déclarations présidentielles sur la religion, les religions. C'est la fin de cette laïcité de combat. Il n'y aura pas, en tout cas dans l'expression à proprement parler, de guerre culturelle contre le salafisme. Il y a l'action coulisse des renseignements. Il y a ce nouveau récit national célébrant un héros républicain. Est-ce que c'est suffisant, Dominique Régnier ?
Mais, écoutez, moi, j'ai le sentiment, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à ce micro, je ne vais pas répéter l'argument, mais il y a d'un côté une affirmation du fait religieux dans le monde qui est incontestable et documenté, qui nous concerne aussi, qui concerne le monde dans sa généralité, mais par les effets de la globalisation, de façon très, très spectaculaire, et par les effets de la globalisation à la fois, je dirais, communicationnelle, les réseaux, le religieux est très présent, beaucoup plus qu'avant, et il le sera désormais beaucoup. Par les effets des mouvements migratoires, le religieux, dans sa diversité et sa conflictualité, se donne à voir aussi plus qu'auparavant et ce sera plus marqué dans les années qui viennent. Moi, je dirais bye bye la laïcité. Celle que nous avons connue n'existera plus jamais. Et ça n'est pas la peine de fouiller dans la loi de 1905 pour savoir si les dispositions s'y trouvent. Ça ne se produira plus en ces termes. Désormais, les présidents devront parler de religion plusieurs fois par an, de façon très substantielle, pour faire face à des sujets religieux qui vont s'exprimer. Depuis quand n'avait-on pas parlé d'un sacrifice inspiré par le christianisme ? Ça fait très très longtemps, qui manifestement relève aussi de cela, ça fait très longtemps. Et nous aurons ceci désormais, et nous n'avons pas, et là c'est un peu, je dirais, la force paradoxalement d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas, lui, parce que par son âge, par son absence de responsabilité antérieure significative, je veux dire avant d'avoir été président, en tant que ministre de l'économie, il n'était pas concerné par ces sujets-là, même s'il a pu s'exprimer à tel ou tel moment, il ne trimballe pas cette impossibilité d'en parler sans dire des bêtises ou sans prendre des risques. Donc ça, c'est aussi, de ce point de vue-là, une scansion. Et nous, les Français, c'est très particulier à la France, nous avions en réalité, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord sur on peut triturer le texte de 1905 qui est plein d'intérêt. Mais c'est pas ça qu'on en a retenu. On en a retenu que la religion allait disparaître. Pas qu'elle allait être réservée à l'espace privé, qu'elle allait disparaître. L'interprétation générale, c'est ça. Le fait religieux, c'est de l'ordre de l'intime, même pas du privé, du fort intérieur. C'était cette idée-là. Je ne dis pas que c'était l'idée de la loi, et je ne dis pas que c'était l'idée de telle ou telle partie de la société française. Mais l'interprétation générale, c'est nous en avons fini avec la religion. Eh bien, on n'en a pas fini avec la religion, mais en plus, elle fait retour, non seulement dans les pays qui sont qui vivent une forme d'insécurité existentielle, parce que là, il y a une grande relation, pays où il y a beaucoup de pauvreté, mais aussi dans nos pays, pour ces mêmes raisons, mais aussi parce qu'il y a, je termine là-dessus, il y a beaucoup de sollicitations éthiques radicales dans notre société, sur les ciseaux génétiques, sur l'utérus artificiel, sur le réchauffement climatique, qui vont solliciter chez nous des catégories de pensée et de réflexion qui vont, pour certains, bien correspondre à des états d'esprit religieux.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Thierry Pech ? Est-ce que réellement Emmanuel Macron aurait renoncé à, j'ouvre des guillemets pour le dire, une religion laïque ? Et c'est vrai qu'il a eu l'occasion de s'exprimer en réalité à maintes reprises sur le sujet pour dire qu'il renonçait au seul côté régalien et autoritaire de l'État qui organiserait seul les instances religieuses. D'une certaine manière, il a eu l'occasion de dire qu'il attendait des cultes qu'ils se réorganisent eux-mêmes.
Bah oui, je pense que c'est pas à l'État de dire ce qu'est le catholicisme, ce que doit être le judaïsme, ce que doit être l'islam. Donc c'est effectivement au culte de s'organiser sous contrainte d'ordre public, naturellement. Mais c'est pas à l'État de dire comment doit s'organiser l'Église ou comment doit s'organiser demain l'islam.
Bon, il y a eu des présidents qui assumaient de dire qu'ils réorganisaient l'islam de France.
Et on connaît le résultat, il s'est rien passé du tout. En réalité, c'est des institutions qui sont dans un état de désintérêt public avancé, on va dire. Il y a de désintérêt parfois dans la propre communauté confessionnelle concernée. Donc, c'est pas franchement une réussite. Je veux revenir à quelques points qui ont été évoqués, si vous voulez bien, sur, effectivement, on a cru que la laïcité à la française, on n'a cru pas les législateurs qui n'avaient pas du tout cette idée en tête, ce que vous avez dit, Dominique, on a cru que c'était le chemin d'une sécularisation qui, au bout du compte, conduirait à un monde sans Dieu, à un monde sans religion. Et ça, c'est une croyance très française. En réalité, tout autour de nous, ce n'est pas ce qui s'est passé, et ce n'est pas du tout, c'est pas du tout le sens de l'histoire, en réalité. Et par ailleurs, j'ai envie de dire, moi, je n'ai pas peur du retour du religieux. Je veux dire, je n'ai pas peur de sortir d'un monde dont la pauvreté symbolique était infinie, d'un monde dont le matérialisme, l'espèce de paganisme, était, comment dire, une impasse sur tous les grands événements de la vie. Je pense que le religieux peut apporter à la société. Bon. Mais ce n'est pas de l'ordre de l'État. Ce n'est pas de l'ordre de la puissance publique. Donc, je pense que c'est... Et puis surtout, si le religieux apporte avec lui dans ses valises la violence, le terrorisme, etc., là, c'est un problème, effectivement. Mais il faut dissocier les choses. Ce n'est pas le religieux le problème. C'est cette espèce de... d'intoxication des esprits qui conduit à penser qu'on peut aller chercher la rédemption dans la mort.
Ou c'est surtout l'intrusion du fait religieux dans l'espace public, par exemple dans l'espace scolaire. Est-ce que dans ce domaine-là précisément, il y a aujourd'hui une réponse qui vous semble satisfaisante, Sylvie Kaufmann, puis François-Xavier Bellamy?
Oui, je voulais réagir, surtout revenir sur le retour du fait religieux. Il y a une image qui m'est restée en mémoire de ces derniers jours, c'était la messe du dimanche des Rameaux à Trèbes, et qui est très significative de ce qui s'est passé ces derniers temps. En réalité, toute cette communauté s'est retrouvée dans cette église de Trèbes et il y avait, avec l'évêque de Carcassonne, le préfet de l'Aude en grand uniforme, la procureure de la République, les élus, les responsables de la gendarmerie et 6 responsables locaux musulmans. Je crois qu'il y avait l'imam de la grande mosquée de Carcassonne. Et c'est assez intéressant qu'aujourd'hui, on ait vu ce besoin de se retrouver de tout le monde dans une église catholique. Voilà. Et autre chose sur Emmanuel Macron, il ne faut pas oublier que lui-même a un parcours religieux assez intéressant qui fait aussi son originalité sur cette question. Il s'est converti, enfin il a été baptisé à 12 ans de sa propre initiative. Il a une éducation jésuite. Voilà. Après, si j'ai bien compris, il n'a plus beaucoup pratiqué, mais il a un rapport avec la religion qui est très particulier. Voilà. Et dernier point sur la loi de 1905. La loi de 1905. En effet, elle est fondatrice pour nous tous, pour notre pays, mais elle date, à l'époque, il n'y avait pas, ou pratiquement pas d'islam en France, et il n'y avait pas non plus de réseaux sociaux, si je peux dire, pour répandre cette idéologie mortifère du salafisme. Voilà, du coup, j'ai oublié votre question.
Mais c'est pas grave, je vais du coup passer la parole à François-Xavier Bellamy, puisque nous parlons de laïcité, ancrons-la dans quelque chose de réellement concret. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a annoncé cet hiver la création d'unités laïcité dans toutes les académies pour aider justement les professeurs à intervenir à leur côté sur le terrain dans des situations où précisément la laïcité serait menacée. Donc, si j'ai bien compris, mise en place d'équipes pluridisciplinaires avec des juristes, des psychologues, des pédagogues. C'est suffisant, c'est dérisoire. Il y a peut-être l'attente d'un discours sur la laïcité et puis il y a des actes dont les enseignants, par exemple, ont besoin aujourd'hui. François-Xavier Bellamy.
Bien sûr, non, je crois que c'est une bonne initiative parce que c'est vrai que beaucoup d'enseignants, beaucoup de chefs d'établissement étaient très démunis face aux difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Mais n'utilisons pas le mot de laïcité pour nous cacher les vrais problèmes. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de naïveté et je crois que notre débat peut-être pourrait risquer de sombrer aussi dans cette difficulté. Ce qui fait aujourd'hui la difficulté que nous rencontrons, ça n'est pas le retour du religieux en général, ça n'est pas le religieux en tant que tel. Ce sont des phénomènes effectivement passionnants à observer. Mais nous, la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est l'islamisme. C'est pas le retour du radicalisme chrétien ou juif. C'est fondamentalement de cela qu'il est question. Et si vous parlez de cette difficulté vis-à-vis de la laïcité dans les écoles, c'est parce qu'aujourd'hui, nous voyons, je l'ai vécu comme enseignant, de plus en plus de jeunes qui nous parlent avec des discours d'une incroyable virulence, par exemple à l'égard à l'égard des juifs, parce qu'ils sont obsédés par une haine qui est entretenue en eux à partir de la situation de la Palestine et de l'État d'Israël. Nous voyons des jeunes qui contestent au nom du Coran des enseignements de philosophie, des enseignements de biologie, des enseignements d'histoire. Et c'est ça, aujourd'hui, notre problème. Notre problème n'est pas le religieux, ce n'est pas un problème de laïcité, c'est un problème qui a trait. Alors, la religion chrétienne a pu entretenir avec l'État en France des relations d'une incroyable conflictualité, bien sûr, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1905 et nous avons devant nous à faire face à cette question-là. Et je dirais du coup d'un autre, pour compléter ce propos, que si nous parlons de façon trop collective, trop englobante du fait religieux, nous aurons peine à désigner ce qui fait la difficulté et peut-être aussi ce qui fait une partie de la solution. Je suis entièrement d'accord avec Thierry Pêche quand il dit que le monde dont nous héritons était marqué par une très grande pauvreté symbolique. Et de fait, qu'est-ce qui a laissé place à ce délire islamiste, notamment dans l'esprit et dans le cœur de beaucoup de jeunes en France, qui sont nés en France, qui n'ont grandi qu'en France, qui ne connaissent même pas le pays dont leurs parents ou leurs grands-parents sont issus? Ce qui a laissé place à ce délire, c'est le fait que nous n'avions rien à leur proposer d'alternative. C'est-à-dire, notre projet de société, c'était d'ouvrir plus de supermarchés le dimanche pour aller pousser nos caddies, même le dimanche, et consommer encore plus. Et notre utopie, c'était la croissance. Et notre projet, c'était l'émancipation de l'individu et la conquête de nouveaux droits individuels. Mais ça ne comble pas une vie. Ça ne remplit pas une vie. Et les jeunes que nous rencontrons et les élèves que nous avons, ils ne cherchent pas dans la vie une occasion de consommer, mais ils cherchent d'abord une occasion de donner leur vie pour quelque chose de plus grand qu'eux. Et c'est dans ce sens, justement, que Arnaud Beltrame, sans doute, nous rend un immense service. C'est-à-dire qu'il montre que nous avons quelque chose à partager ensemble, quelque chose qui nous dépasse. Or, rien n'appelle tant les jeunes et ne les attire autant, rien n'appelle tant aussi le cœur humain que ce qui peut constituer pour nous une occasion de nous dépasser. Et de ce point de vue-là, une piste de solution est peut-être de nous permettre de retrouver, non pas dans la foi chrétienne, parce que l'État, évidemment, n'a rien à faire avec le fort interne, mais dans une certaine tradition spirituelle nourrie de la tradition judéo-chrétienne, nourrie de l'influence du monde grec et du monde latin, de retrouver un modèle qui vaille la peine d'être proposé, qui vaille la peine d'être offert et qui vaille la peine d'être transmis. Ce que nous n'avons pas su faire, ce que nous n'avons même pas su nommer, et ce que nous n'arriverons pas à nommer si nous continuons de faire de ce problème un problème général de laïcité ou de rapport au religieux.
Alors je ne sais pas s'il y a un retour d'une spiritualité dans ce début de quinquennat Macron. En tout cas, il y a cette semaine, il est vrai, cette nouvelle figure de l'héroïsme incarnée par le colonel Beltrame. Et puis il y a aussi le monde réel et les banlieues qui sont évidemment un fait dont on ne peut pas ne pas parler dès lors qu'on aborde ces sujets-là, avec la démission très concrète et très réelle cette semaine de Stéphane Gatignon, le maire de Sevran, cette ville de 50 000 habitants, c'est l'une des plus pauvres du 93. Fin connaisseur des banlieues françaises, il quitte son mandat de maire. Il dit « Mon but a toujours été de faire péter le ghetto, mais je crois que les gouvernements successifs ne partagent pas cet objectif. On continue à faire de la banlieue un monde parallèle, structuré comme une société précaire. » Ça, c'est le monde réel, Dominique Régnier, et ça a à voir avec ce dont nous parlons.
Alors, oui, oui, c'est évidemment le monde réel, ça a à voir aussi avec ce dont nous parlons. On pourrait d'ailleurs y consacrer du temps hein, à cette démission, qui, par certains aspects, dans les propos tenus, paraît excessif et même injuste, parce que énormément de moyens ont été consacrés aux banlieues françaises, et serait tout à fait injuste de laisser penser que ça n'a pas été le cas. Que ce soit pas suffisant, c'est possible, mais énormément de moyens ont été consacrés. Et puis, moi, je voudrais le relier à la question que nous évoquions à l'instant, parce que, malgré tout, j'aimerais ajouter que je ne crois pas qu'on puisse, je voudrais le redire, je ne crois pas qu'on puisse, comme nous le faisions jusqu'ici, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en lamente, mais c'est un fait, séparer le religieux et le politique. Ce qu'on observe en Europe aujourd'hui, et récemment, par exemple, dans les élections locales néerlandaises, c'est l'installation de partis islamistes qui présentent des candidats et qui ont des élus de plus en plus nombreux et avec des liens très forts avec, en l'espèce, la Turquie, avec des pays qui ont des vraies stratégies politiques. Mais donc, de quelque manière qu'on regarde cette réalité, et ça vaut aussi pour les quartiers, évidemment, qui sont en difficulté, qui sont ghettoisés parce que nous ne savons pas bien, probablement, les intégrer dans notre propre système de politique publique, mais aussi parce que il y a dans ces quartiers des habitants qui ont un intérêt à la ghettoisation, parce qu'il y a des trafics qui sont associés, etc. Enfin, tout ça est quand même maintenant très connu. Il y a vraiment cette espèce d'impuissance ou de désir de rester, d'impuissance contre la ghettoisation ou de désir de rester ghettoisé pour des questions qui sont d'ordre relevant de trafic ou bien même de communautarisme religieux. Mais surtout, attention, parce que l'étape dans laquelle nous entrons, c'est l'islamisme comme projet politique qui s'organise, et encore une fois, qui commence dans différentes démocraties européennes. C'est si facile dans nos systèmes, nous en sommes si fiers, et à raison, de se présenter à une élection qui commence à développer un programme de politique pure.
Pour terminer cette première partie, l'accusation de naïveté, ce mot qui est revenu régulièrement dans la semaine porté à l'égard du président Macron, il peut faire du tort, il peut s'inscrire durablement dans ce quinquennat, Sylvie Kaufmann.
Je ne sais pas, on voit que l'opinion publique dans les quelques sondages qui ont été faits réclame des mesures plus dures, oui, mais c'est toujours le cas dans ce genre de situation. La gauche a été, enfin ce qui reste de la gauche, a plutôt soutenu Emmanuel Macron.
Oui, avec cette intervention très observée de Jean-Luc Mélenchon dans l'hémicycle, faisant quasiment applaudir la majorité.
Voilà, ensuite, non, je pense qu'il faut, on revient aux questions de base qui ont été posées ici aussi, c'est que faire avec, comment lutter contre cet extrémisme dans les quartiers, cette ghettoisation favorise de toute évidence. Voilà, quels sont les moyens de le faire, l'éducation.
Alors, il y a le rapport Borloo, hein, qui sort dans 15 jours, qui est incroyablement attendu, comme s'il s'agissait d'un ministre bis. Est-ce qu'il ne suscite pas trop d'attente, ce rapport-là, face justement à l'immensité de ce chantier dont parlait Sylvie à l'instant, Thierry Pech? Comment lutter contre le salafisme et la ghettoisation des banlieues?
C'est gentil. J'ai...
Oui, c'est bien de vous dire ça comme dernière question.
2 minutes 20.
La solution. Vous avez 2 jours.
Non. Alors, je suis désolé, je ne vais pas vous répondre une autre fois, peut-être, mais on attend le rapport Borloo, et Borloo est très content qu'on attende son rapport, d'ailleurs, comme vous pouvez l'imaginer.
Non, mais c'est pas complètement secondaire dans l'histoire.
C'est pas du tout secondaire. Mais ce qui serait naïf, je reviens au reproche de naïveté, ce qui serait naïf, c'est de penser qu'on ferait une loi, on dirait que le salafisme c'est interdit, et tout irait mieux. Mais les salafistes s'en foutent.
Bien sûr.
Mais ils s'en foutent. Je veux dire, les salafistes qui sont dangereux, qui préparent des attentats, ça les fait rigoler.
C'est pas une question de loi, d'ailleurs.
Le problème que j'ai avec ce que vous disiez, François-Xavier, sur ce sujet, c'est que s'il s'agit d'une organisation, nommez-la, montrez-la, où est-elle l'organisation? Le problème, c'est que c'est pas une organisation, c'est une multitude de foyers, de gens qui décrochent, ou de gens fragiles, utilisés, manipulés par la cause.
Vous dites la même chose que moi, c'est-à-dire s'ils sont manipulés, c'est que quelqu'un manipule.
Quand vous dites une organisation...
Non mais je veux dire par là que c'est organisé, il se passe quelque chose qui est, comme le disait Dominique Régnier, je le crois profondément, qui est pensé. Alors je ne dis pas qu'il y a organisation...
Comprenez-moi, c'est pas l'ETA. Vous voyez, c'est ça le problème. Il n'y a une organisation avec une hiérarchie, etc. Bien sûr, mais c'est pas ce que je veux dire. Oui, mais ça change tout dans la façon de lutter contre. Parce que c'est un phénomène diffus. Et donc, ce qui serait naïf, c'est de penser que on ferait des grandes lois, on prononcerait des interdits, et le problème serait réglé. On les a, les lois. Et le problème n'est pas du tout réglé.
Donc, le dispositif existe, et cette guerre culturelle dont nous avons parlé au début de ce débat, elle est engagée. Emmanuel Macron ira-t-il ou pas dans cette guerre-là? Ce sera le mot de la fin sur cette première partie.
Non, mais c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, je
voilà.
Nous l'inviterons dimanche prochain. Voilà. Merci. Fin de cette première partie. Nous partons à présent prendre le pouls du mouvement étudiant.
France Culture, L'Esprit Public, Émilie Aubry.
L'histoire a retenu que mai 68 avait commencé le 22 mars, parce que des garçons de la cité U de Nanterre avaient investi le bâtiment des filles et que le doyen de la fac, un dénommé Grappin, avait envoyé les forces de police. Jeudi 22 mars 2018, autre fac, autre doyen, Monsieur Pétel, doyen de la fac de droit et de sciences politiques de Montpellier, aurait laissé entrer une bande de costauds cagoulés, vraisemblablement issus du GUD, syndicat étudiant d'extrême droite, planches de bois et barres de fer à la main, pour déloger des étudiants réunis en assemblée générale. Le doyen Pétel et un professeur ont depuis été placés en garde à vue mercredi dernier et suspendus, suspectés d'avoir participé ou organisé ces violences. Alors tandis que depuis plusieurs semaines on lisait des articles sur le thème « Et si c'était la jeunesse qui ébranlait Jupiter », constatant ça et là des mouvements de contestation contre les nouvelles procédures d'entrée à l'université, cette fois les faits semblaient là. Tolbiac bloqué depuis lundi à Paris, la fac du Mirail à Toulouse, le campus de la Victoire à Bordeaux, blocus illimité à la fac de Lettres de Montpellier, sans oublier le 22 mars dernier où des lycéens s'étaient essayés à ressentir le grand frisson du mois de mai.
Alors aujourd'hui on est le 22 mars, on est au lycée Ronsard à Vendôme et il se passe un truc un petit peu foufou.
Ah, pour Vendôme c'est foufou, on peut le dire.
On n'a pas vu ça encore.
On n'a pas vu ça depuis au moins 68.
Mai 68, oui. Ça vous dit quelque chose?
Oui, ça vous dit quelque chose.
Ça vous dit, je sais que vous savez.
Donc en fait il y a un blocus devant le lycée et donc c'est pour la nouvelle réforme, la loi Vidal.
La loi Vidal.
Donc la sélection des facs et nous on a décidé du coup de manifester et de bloquer le lycée.
On vous fait un petit reportage, voilà. On vous laisse voir ça.
Ce que j'attends, c'est une prise de conscience. Que même ceux qui soient pas à la fac, qui n'aient pas l'intention d'aller à la fac, se rendent compte que finalement, l'université non sélective, c'est quelque chose qui est une fondamentale de notre système.
C'est un peu la galère, je trouve pas ça toujours très juste. On va privilégier un élève finalement avec des compétences générales, c'est-à-dire ouais. bon dans tout, et on n'appuie pas assez sur nos points forts finalement.
Ouais.
Donc c'est pas juste pour tout le monde.
Bah je pense que ça fait du tri.
Ouais.
Donc je pense que c'est bien parce qu'il y a quand même pas mal, même s'il y en a qui disent que c'est pareil, il y a quand même pas mal de glandeurs, donc du coup bah...
Voilà pour ce reportage qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux sur des lycéens de Vendôme qui ont donc joué à mai 68 et qui ont tourné ce reportage. Sérieusement, se passe-t-il ou non quelque chose dans le monde étudiant sur deux thématiques, pas d'agression et de présence de l'extrême droite dans les campus, c'est ce qu'on a vu à Montpellier, et pas de sélection à l'entrée des universités, sachant que nous sommes quelques jours après la fin de Parcoursup, hein, ce nouveau dispositif pour choisir son orientation universitaire. Sylvie Kaufmann.
Alors, il se passe quelque chose, comme vous l'avez dit, il y a des blocages, il y a des grèves. Est-ce que c'est le début d'un grand mouvement social ? Je dois reconnaître que je suis absolument incapable de le dire. Bien sûr, il y a cette réaction contre cette frustration ou ce mécontentement manifesté ça et là contre la loi orientation et réussite des étudiants, donc sur l'accès à l'université, sur la réforme de l'accès à l'université et ce refus de la sélection qui est ce mot extraordinaire qui bloque tout, enfin qui est vraiment, alors on parlait de symbole tout à l'heure, là on en a vraiment un, et l'extrait, cet étudiant qui disait que vous avez, dans l'extrait sonore que vous avez, une lycéenne qui disait l'université non sélective est un fondement de notre société, comme si c'était une réussite de notre société, alors que je pense que tout le monde a conscience maintenant que c'est un échec terrible. Voilà, maintenant, c'est vrai que ce mouvement ne prenait pas, il a commencé depuis plusieurs semaines dans certains endroits, et il y a au moins deux endroits où il s'est durci pour des raisons locales. À Toulouse, je crois qu'il y a un problème de gouvernance de l'université dans lequel le ministère est intervenu directement. Et puis il y a cet incident absolument extraordinaire de Montpellier qui est quand même incroyable avec ces deux professeurs mis en examen. Donc là, on est dans un schéma, j'espère, assez exceptionnel. Voilà. Après, est-ce que ça va s'étendre ? Il y a aussi des facteurs dont on tient toujours compte dans ce genre de situation. Le week-end de Pâques, les vacances qui arrivent bientôt, les partiels qui ne sont pas loin. Tout ça peut aussi jouer.
Ministre qui s'emploie à déminer, à appeler au calme, à rassurer, hein, qui a rappelé notamment l'ouverture cette semaine de 22 000 places supplémentaires, notamment dans les filières les plus demandées, parce que malgré tout, Thierry Pech, ce débat sur la sélection, il ne peut pas être évacué si rapidement. Il existe de fait, on l'a entendu, ces lycéennes. On va quand même rapidement rappeler que désormais avec le parcours sup, avant les lycéens formulaient 24 vœux hein, par ordre de préférence. Aujourd'hui, c'est 10 vœux sans hiérarchie. Avant, tout lycéen devait avoir une place en fac. Aujourd'hui, il y a encore cette incertitude. Et puis, il y a cette nouvelle note subjective qui est mise par le professeur principal pour évaluer la capacité de l'élève à réussir dans la formation visée. Et ça aussi, ça n'existait pas avant. Elle n'est pas résolue encore, la question de la sélection. On ne sait pas encore ce qu'elle peut générer en France.
Non, mais elle a déjà... D'abord, avant même la réforme, la sélection, ça existe.
Absolument.
C'est une hypocrisie de dire « Ah, la sélection arrive ». Elle est là. Et elle est là de la pire des façons. Elle est là sous la forme d'un darwinisme social qui s'habille dans une rhétorique égalitaire. C'est fascinant, la France, de ce point de vue-là. En gros, vous avez trois filières. Vous avez une filière à laquelle on ne touchera pas parce que c'est le joyau dans la bijouterie française, c'est les grandes écoles, les classes préparatoires aux grandes écoles. Là, les effectifs sont stables et ils vont continuer à l'être. Vous avez une deuxième filière sélective dont on ne parle jamais parce qu'elle est faite pour les fils des classes populaires, les enfants. C'est le sélectif court, STS. Bon, et en fait, c'est plus seulement les enfants des classes populaires qui y vont, et c'est ça le problème. Celle-là, on n'en parle pas non plus parce qu'au fond, les gens qui parlent, comme nous, on s'intéresse pas tellement en fait à ce qui se passe dans les lycées pro, les lycées techno et les filières courtes. Bon, puis vous avez une troisième filière qui est la fac. Et à la fac, la sélection aussi, elle se fait à la fac. Tout le monde réclame le droit d'entrée, mais c'est pour aller au champ de bataille, au terme de la première ou de la deuxième année, avec des taux de chute, d'échecs qui sont considérables, notamment pour les enfants qui ne viennent pas des bacs généraux, qui se retrouvent là parce qu'ils n'ont pas trouvé de place.
Il y a un reproche majeur qui est fait à la philosophie de cette réforme, faisons-en l'écho, c'est l'idée d'inscrire désormais cette orientation dans quelque chose de pré-professionnalisant de façon beaucoup trop rapide.
Mais je crois que ça, ce n'est pas vrai. Alors, la réforme, qu'est-ce qu'elle dit ? Le bac reste un ticket d'entrée pour le supérieur. Bon, ça, c'est un point. Deuxièmement, soit dit en passant, les frais d'inscription et les frais de sécurité sociale étudiante baissent. Il n'y a pas de sélection par l'économie. Ensuite, elle dit on a un problème d'articulation entre le lycée et le supérieur et d'orientation. Et ça, il faut le résoudre. On ne peut pas continuer à envoyer des contingents de milliers, de dizaines de milliers d'enfants dans des filières où ils vont à la mort un an ou deux ans plus tard. Bon. Alors comment on fait ? On fait les attendus et puis on dit aux établissements du supérieur, vous allez prendre vos responsabilités. Je vais vous raconter une scène, si vous me donnez une minute, que j'ai trouvée tout à fait exemplaire. Vous avez une équipe pédagogique donc d'une faculté qui est demandée par 5000 élèves, hein, mais qui n'a que 700 places. Bon. Et les profs disent « Ah, on va quand même pas trier, on va quand même pas prendre les meilleurs. » Alors quelqu'un dit « Bon, bah, à ce moment-là, on va tirer au sort. »« Ah non, on va pas tirer au sort. Bah, à ce moment-là, comment on fait ?» Mais en fait, la réponse, c'est que tout le monde souhaite une seule chose, c'est que ce soit fait par quelqu'un d'autre. Et si possible, un algorithme qui n'ait pas de responsabilité, parce que personne ne veut faire ce choix. Mmh. Mais le problème, c'est que vous avez des contingents démographiques extraordinaires qui arrivent aujourd'hui dans le supérieur. Vous allez avoir en 2018 40 000 bacheliers de plus par rapport à 2017. La rentrée 2018 va être spectaculaire. Donc ça va faire 33 000 étudiants de plus, parce qu'il y a ceux qui ne vont pas poursuivre dans le supérieur. Bon. Ces 33 000, ils vont aller où ? Eh bien, ils vont pas aller en classe préparatoire, parce que là, les effectifs sont stables et bougeront pas. Ils vont pas aller tellement en STS, parce que même si la ministre a dit qu'elle allait créer des places, et c'est là qu'il faudrait en créer, elle peut pas en créer non plus une infinité. Donc, ils vont aller à la fac, et ils vont y rester 2 ans. Ils seront rejoints l'année d'après par 30 000 étudiants supplémentaires, plus 60 000 en 2 ans. Donc, il y a un vrai problème démographique qui n'a rien à voir avec la pertinence de la réforme, parce qu'il faut faire de l'orientation, parce qu'il faut aider les gens à aller dans les directions où ils peuvent construire leur vie, tout simplement. Bon. Mais par ailleurs, vous avez une question démographique qui explique légitimement, je crois, le malaise qui est en train de s'exprimer.
Alors, c'est tombé, on a 2 enseignants, l'un à Sciences Po et l'un en classe préparatoire sur ce plateau pour illustrer parfaitement la théorie de Thierry Pech. François-Xavier Bellamy, on va rappeler, du coup, vous enseignez la philosophie, certes en ce moment en classe préparatoire, mais vous connaissez bien aussi les problématiques du secondaire. Est-ce que vous pensez que quelque chose peut se cristalliser autour de cette réforme ? Est-ce que, selon vous, elle revient en effet sur quelque chose qui appartenait à l'identité française, à savoir de refuser la sélection à l'entrée des universités ?
La vérité, c'est que l'université paye aujourd'hui l'échec de notre système scolaire. C'est-à-dire qu'au fond, elle paye l'échec du CP. On a des cohortes d'élèves qui sortent de l'enseignement primaire puis secondaire en ayant du mal à maîtriser les éléments les plus fondamentaux de la culture, de la connaissance. Et ces jeunes-là, qui ne sont du coup retenus nulle part quand ils se présentent pour des filières sélectives, le seul lieu qui est obligé de les accepter, pardonnez-moi de parler comme ça, c'est absolument atroce, mais c'est un fait, c'est l'université. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de filières universitaires, mais 4 d'entre elles concentrent 50% des demandes. La plus importante, c'est STAPS, c'est le sport, ensuite psychologie et ensuite droit. C'est-à-dire que vous avez, je mets médecine à part, parce que médecine, il y a une sélection extrêmement, c'est la quatrième, mais il y a une sélection extrêmement forte qui se fait à la fin de la première année. Donc clairement, moi je l'ai vu comme professeur de terminale, enseignant en ZUS, voilà. Quand vous n'êtes pas pris effectivement dans un IUT qui est une filière sélective, quand vous êtes dans un lycée où on ne sait même pas ce que c'est qu'une classe préparatoire, vous allez candidater à la faculté et vous vous retrouvez dans des amphis de sport parce que quand vous avez l'impression de ne rien maîtriser des éléments les plus fondamentaux, y compris dans la lecture, dans l'écriture, vous allez être attiré forcément par quelque chose qui vous touche, qui vous parle. Mais évidemment, ces jeunes-là, quand on sait que vous avez chaque année plusieurs dizaines de milliers d'étudiants qui rentrent en STAPS, c'est très difficile d'imaginer quel sera leur avenir professionnel pour beaucoup d'entre eux. Donc, en fait, notre société repose, je suis d'accord avec Thierry Pech, sur une immense hypocrisie, dont le bac est le dernier mot, et dont la conséquence massive est payée par l'université et par les étudiants qui rentrent à l'université sur la base de ce grand mensonge que nous avons entretenu, et que ces jeunes d'ailleurs assumeront, alors même qu'ils ont choisi de jouer le jeu de la République, puisque ils ont été jusqu'au bac et ils vont jusqu'aux études supérieures qu'on leur décrit comme un moyen d'insertion dans la société. Donc là, il y a évidemment un problème massif.
Alors, est-ce que la réforme met fin à ce mensonge?
Non, le vrai drame, la réforme est encore très timide par rapport à ce qui constitue l'enjeu majeur. Si on voulait dire la vérité aux jeunes, il faudrait évidemment que les filières qui les accueillent vérifient qu'ils sont capables de suivre les études proposées.
Est-ce que c'est pas la fameuse notion de prérequis qui existe dans cette réforme aujourd'hui?
Mon seul désaccord avec ce que dit Thierry Pêche à l'instant, c'est que c'est pas tellement le champ de bataille qui fait la mortalité universitaire. Je veux dire par là le fait que, effectivement, à la fin de l'année de licence, vous avez un étudiant sur deux qui a disparu du circuit. Ce qui fait cette mortalité universitaire, pour reprendre le mot de la sociologie, c'est simplement le fait que ces jeunes sont totalement incapables. Ils ne sont pas préparés à suivre des cours de fac. Et donc, il y a évidemment un mensonge colossal. Et si on voulait faire en sorte que tous ceux qui entrent à l'université soient capables d'en suivre les exigences, il faudrait organiser une véritable sélection, ce que la loi Vidal ne fait pas en réalité. Elle se contente de fixer un attendu. J'avais une deuxième chose à dire très brièvement. Il y a un débat. Je ne suis pas tout à fait favorable à cette loi pour plein de raisons, parce que je pense que d'ailleurs, ce nouvel algorithme était essentiellement en défaveur des élèves et le but est de gommer surtout les aléas qu'on avait rencontrés dans APB, mais qui ne seront pas en fait améliorés par Parcoursup. Un des points les plus dramatiques, c'est le fait qu'on ne puisse plus hiérarchiser ses vœux, qu'on se rende compte quand même de ce que ça veut dire pour un élève d'être propulsé au hasard dans 10 vœux qu'il est contraint de faire au choix, sans pouvoir dire ce qui compte le plus pour lui. Enfin bon, c'est un détail. Mais il y a un débat sur le débat lui-même, c'est-à-dire sur la manière de vivre le débat. Et je saisis l'occasion qui m'est donnée ici de faire ressurgir une colère d'étudiants devant le fait de la bienveillance collective que nous partageons à l'endroit de l'occupation des facs. C'est totalement hallucinant. Je veux dire par là que nous sommes tous d'accord pour considérer qu'il est normal de condamner la violence qui consiste à faire sortir des étudiants d'un amphi à coups de barre de fer, mais la violence qui consiste à empêcher des enseignants d'enseigner, à empêcher des étudiants d'étudier, n'est pas moins importante. Elle est tout aussi scandaleuse. Comment se fait-il que le doyen Pétel soit en garde à vue depuis maintenant 48 heures et qu'aucun étudiant ne soit en garde à vue pour l'occupation des facs? Je crois qu'il est normal de pouvoir faire grève, même si le concept de grève en matière d'études devrait pouvoir être relativisé. Mais faire grève, ça veut dire ne pas travailler, ça ne veut pas dire empêcher les autres de travailler. Et si les jeunes qui sont...
Ça peut vouloir dire empêcher les autres de travailler dans l'histoire sociale.
Oui, mais enfin, ça constitue un abus du droit de grève, et on en est tous d'accord.
Ça veut dire faire du travail un sujet politique.
Non, faire du travail un sujet politique, ça veut dire effectivement organiser sa propre désertion, son retrait de l'activité économique. Il y aurait même un sujet sur le fait que la grève constitue un moyen d'action étudiante, mais... Passons, c'est vraiment un détail. Le point vraiment fondamental, c'est que si les étudiants sont de gauche, ils devraient considérer que effectivement une année d'études, ça coûte cher pour beaucoup d'étudiants, et que paralyser, comme on le fait aujourd'hui, dans une espèce de bienveillance tranquille... Moi, ce reportage qu'on a entendu tout à l'heure, il me fait sourire, mais à moitié, parce qu'il y a vraiment quelque chose de tragique et de scandaleux dans le détournement qui est fait d'un bien public, qui est l'accès à la connaissance
Dominique
et l'accès à l'éducation.
Finally. Sur quoi, d'ailleurs? Parce que je suis un peu...
Bah écoutez, je crois que nous venons d'entamer un débat passionnant et que nous allons essayer de mener jusqu'au bout, en tout cas, sur la notion de grève.
Non, mais ce qui est frappant, c'est que le thème d'un pays qui n'arrive pas à accepter la sélection, mais qui la pratique dans ce secteur-là de façon absolument obsessionnelle, puisque même dans les grandes écoles, comme chacun le sait, on en entend régulièrement parler... Ce qu'il faut, c'est non seulement être reçu, mais sortir bien classé avec des numéros 1, des numéros 2, et même des majors du premier coup, vous avez ça. Puis après, vous avez le major du premier coup qui a été le plus jeune major du premier coup. Donc c'est un pays qui a l'obsession de ce genre de choses. C'est fascinant, la France, pour ça. On a battu les Chinois auxquels on a à peu près emprunté ce système qui fabrique effectivement des mandarins, enfin qui fabriquait des mandarins. Et on a très clairement accepté que dans le public, tous les moyens les plus importants soient donnés aux filières les plus sélectives. C'est pas simplement une hypocrisie, c'est une injustice, c'est même un scandale politique. Et c'est assez triste de voir, moi je trouve, que les étudiants, j'espère sincères, occupent des universités au nom de la lutte contre la sélection. C'est vraiment fabriquer le malheur futur de ceux qu'ils veulent représenter ou qu'ils veulent défendre. Et j'ajouterai que aujourd'hui, les étudiants, les lycéens, qui se retrouve à l'université, dans cette université qui souffre énormément. C'est très difficile. Franchement, je lève mon chapeau au président de l'université aujourd'hui, qui accepte le job en général, qui accepte le job parce qu'il faut bien porter tout ça. Et c'est extraordinairement difficile. Les étudiants qui arrivent là, ils ne sont même pas désireux d'être là où ils se trouvent. Où est la construction d'un projet? Et là, il faut absolument, et d'ailleurs, la réforme insiste, et je trouve que c'est très bien, moi, sur la construction d'une orientation, parce qu'il est essentiel de le faire. Dans le secondaire, malheureusement, le corps enseignant, alors je suis sans doute un peu catégorique en disant ça, il faudrait y mettre beaucoup de subtilité et de statistiques, mais malgré tout, on encourage les lycéens à aller à l'université. On les encourage. C'est la voie normale. Il n'est pas sûr que ce soit une bonne idée de le percevoir en ces termes. Et vous avez en France 50% des étudiants en psychologie d'Europe. Donc nous sommes un pays qui... Alors pour profiler, on va pouvoir profiler. On a 50%. Et nous avons, je l'ajoute quand même, le record de consommation d'antidépresseurs. Donc on a beaucoup de psychologues.
Ouais. Évidemment, alors, le pas de débat sur la consommation d'antidépresseurs en France aujourd'hui. Pour terminer cet esprit public, Thierry Page, j'aimerais quand même qu'on revienne sur ce qu'a dit François-Xavier Lamy à l'instant. Ce mouvement qui pourrait ou pas se cristalliser dans les universités et dans les lycéens, ce qui relèverait juste d'une espèce comme ça de nostalgie d'un mai 68 qui fait encore fantasmer beaucoup cette génération mais qui ne reposerait pas sur grand-chose, ou est-ce que réellement, il peut exister aujourd'hui une espèce d'incertitude ou sentiment d'angoisse chez les jeunes face à ce début de quinquennat Macron et face à ce qu'il leur est proposé pour la suite de leur parcours universitaire?
Bon, on peut s'émouvoir que des gens qui occupent des facs empêchent d'autres personnes de travailler. C'est un débat, mais ce n'est pas exactement la question que vous posez. Ce que vous dites, est-ce que ce mouvement a une forme de légitimité? Comment? Oui, je pense qu'il y a un malaise de la jeunesse dans ce pays, mais c'est presque une évidence. Bon, et donc on attrape le premier sujet qui passe, fut-il inapproprié, parce que je pense que vraiment cette loi n'est pas contre leur intérêt, pas du tout. Et personnellement, je la soutiens, contrairement à François-Xavier, parce que je pense qu'il faut faire ce travail d'orientation, de continuité lycée supérieur qui n'est jamais fait. Mais bien sûr que la jeunesse a mille raisons aujourd'hui d'être anxieuse, d'être angoissée, et singulièrement celles qui se retrouvent aujourd'hui dans des universités qui ne sont pas prêtes à accueillir de tels flux de gens qui, pour certains d'entre eux, je suis moins catégorique que vous François-Xavier, mais je vous rejoins en partie, qui pour certains d'entre eux ne sont pas du tout préparés à ça, pas du tout. Je veux dire que des lycéens de bac pro ou bac technologique arrivent dans des filières générales parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire du sélectif court, avec une formation professionnelle derrière, que ce soit STS, IUT, etc. C'est pas bien. C'est pas bien pour eux, c'est bien pour personne. On perd du temps, on perd de l'argent, on perd de l'espoir. L'espoir que ces jeunes portent dans la vie, mettent dans leur vie. Bon. Donc, que cette jeunesse soit angoissée et qu'elle dise « bon, maintenant ça suffit », je le comprends très bien. Je le comprends très très bien, et c'est pour ça que le carburant est là, pour qu'un mouvement, je ne sais pas s'il aura lieu, mais pour qu'un mouvement important prenne forme dans les semaines qui viennent. Ce serait malheureux que cette loi en fasse les frais, parce que c'est une bonne loi, et je crois que c'est dans cette direction qu'il faut aller.
Alors évidemment, beaucoup de questionnements cette fin de semaine sur la façon dont va se dérouler la semaine prochaine avec réellement l'entrée en vigueur de ce concept joliment appelé grève perlée. A priori, la journée de mobilisation mardi sera très difficile, un train sur 10 seulement. La grève des éboueurs également. Est-ce que cette fameuse cristallisation qui fait tant fantasmer les éditorialistes dans différents médias, vous la voyez à l'œuvre, Sylvie Kaufmann, pour les jours qui viennent?
La convergence des luttes. Oui.
En effet, un nouveau concept.
Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est au bout d'un parcours, d'un système, et les gens ont conscience maintenant que, par exemple, APB, ça ne pouvait plus marcher, ça a explosé. On utilise beaucoup ce terme à propos d'APB, le système a explosé. La SNCF, ce n'est pas satisfaisant, ça ne marche pas. Après, est-ce que les solutions proposées sont les bonnes? C'est un autre débat. Elles sont sans doute insuffisantes à chaque fois, mais je crois que les Français ont conscience maintenant d'un moment où certains mécanismes sont à bout de souffle et qu'il faut les changer. Je ne crois pas que dans ce sens-là, je ne pense pas que 2018 soit comparable à 1995, sans parler de mai 1968.
Dominique Régnier, vous appréhendez mai 68 ou 95 la semaine prochaine?
Non, j'imagine que j'ai 15 secondes pour vous répondre.
Non, mais pas du tout.
Non, je ne vois pas de rapport. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de préoccupations. Il y en a beaucoup, évidemment, dans les jeunes générations. Ça ne signifie pas que l'université va bien et qu'on s'étonne de cette crise. L'université va très mal, je le redis. Et cette crise se comprend de ce point de vue-là. Elle peut se déployer, elle peut prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, sans préjuger du futur, aujourd'hui, on a affaire à un phénomène de minorité hyperactive qui savent faire, qui sont organisés et qui généralement sont en lien avec des partis politiques ou des syndicats qui n'arrivent pas à être représentés de manière significative, soit dans l'espace politique, soit dans l'espace syndical. Et c'est ça qui est un peu, je dirais, le point d'attente. Si nous en restons là, le mouvement va s'essouffler et s'éteindre. Si à partir de là, si c'est un noyau de départ, si à partir de là, il y a une sorte de déploiement, d'affirmation de ce mouvement et d'extension, au fond, à d'autres publics, là, il est possible que quelque chose devienne problématique. On sait que pour les gouvernements, quels qu'ils soient, c'est le type de conflit qui, par définition, est difficile à anticiper. C'est comme un feu qui couve, qui peut s'éteindre ou, au contraire, prendre beaucoup plus. Donc il ne faudrait pas mépriser ce qui se passe, c'est d'ailleurs pas ce que fait ce gouvernement, ne pas être sûr qu'il ne va rien se passer ensuite, mais aujourd'hui ça reste encore très largement entre les mains de minorités hyperactives.
Vous sentez cette incertitude aussi, François-Xavier Bellamy ?
Oui, elle est immense, et de fait on a parlé tous ensemble ici de cette injustice très profonde que notre système scolaire recouvre. Si les jeunes qui arrivent aujourd'hui à l'université n'ont pas les moyens d'en suivre les attendus, ça n'est pas par leur faute, mais c'est par la faute de notre système éducatif qui n'a pas su transmettre les fondamentaux à des jeunes, quel que soit leur milieu social d'origine. Et de ce point de vue-là, on pourrait rêver, non pas d'un anti-mai 68, mais d'une forme de prise de conscience collective, de moment collectif qui consisterait à reconstruire ce qui a été, ce qui peut-être a été déconstruit parfois dans nos systèmes de transmission, au profit d'abord des plus défavorisés, des plus déshérités à l'intérieur de la société contemporaine.
Sylvie Kaufmann.
Je voulais revenir juste sur cette question de la sélection, et c'est vrai que quelle est la finalité au fond de la formation supérieure? C'est le travail, c'est l'intégration du monde du travail,
et
c'est ça aussi, c'est qu'on a ce parmi les facteurs d'anxiété dont vous parliez tout à l'heure, il y a quand même ce chômage de masse qui n'est pas résolu et qui est particulièrement cruel pour les jeunes.
Thierry Pech, je vous laisse le mot de la fin.
La grande différence avec 68, une des grandes différences, c'est qu'en 68, il devait y avoir 25% d'une classe d'âge qui accédait au supérieur, à peine. Aujourd'hui, on est à 70%. Les gens qui parlent aujourd'hui dans les universités, les étudiants, sont pas les fils de la grande bourgeoisie. Ce sont les fils de la société française, de façon beaucoup plus plurielle que ça. Et donc, si ce mouvement prend, ce qu'on entendra, c'est pas des bourgeois rouges. C'est pas ça. Ils seront peut-être rouges, mais ils seront pas seulement des bourgeois. Et il faudra s'y faire et essayer de comprendre ce qui se passe.
Et on observera tout cela ces prochains jours. Merci beaucoup Thierry Pech, Sylvie Kaufmann, François-Xavier Bellamy et Dominique Régnier d'avoir été nos visiteurs du dimanche en ce 1er avril. Merci à Céline Leclerc et Caroline Chausset qui ont préparé avec moi cette émission, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui Inès De Bruyne et Nicolas Andreu. Tout de suite, bien sûr, c'est l'heure de retrouver notre ami Alain Kruger pour son déjeuner dominical qui nous emmène aujourd'hui déjeuner dans les vignes entre Buzet et Agen. Alors, levons un verre et à dimanche prochain.